exposé.
Matière.
Plastique.
Installé. Accroché.
Exposé.
Sixième plateau.
Hermut.
Un peu cérébral.
Frac PACA. Sixième plateau. Une oreille tendue vers le frac PACA. Radio Grenouille. Sixième plateau.
Ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose.
Frac PACA. Radio Grenouille. Sixième plateau.
Bonjour à tous. On grimpe ensemble jusqu'au sixième plateau, l'émission mensuelle du Frac PACA sur Radio Grenouille. Aujourd'hui, visite guidée au sein des 900 mètres carrés de la réserve du Fonds Régional d'Art Contemporain. Au 20 boulevard de Dunkerque, à deux pas de la place de la Joliette, ce bâtiment, conçu par l'architecte Kengo Kuma, abrite de nombreux espaces d'exposition et de médiation, mais également des réserves impressionnantes, car l'une des missions du FRAC est la conservation et la diffusion d'œuvres d'art contemporain. Pascal Pron et Laura Bayot, chargés de collection, ont emmené Jeanne Lacaille visiter cet espace de conservation qu'on pourrait croire endormi et plein de poussière, mais qui en réalité est un lieu bien vivant. Nos deux guides sont tout à fait passionnés par leur métier. Ce qu'ils aiment le plus, le rapport au temps, à l'évolution des œuvres, à ce qui fait œuvre. Ils nous feront également part de l'importance capitale de la documentation. Une relation intime avec ces créations qui attendent ici d'être explorées. Œuvre.
Plastique.
Matière. Frac PACA. Radio Grenouille. Sixième plateau.
Donc moi je suis Pascal, je m'occupe de la collection au FRAC depuis quelques années et en compagnie de Laura qui m'a rejoint il y a à peu près trois ans.
Bonjour. Où est-ce qu'on est là ?
Alors nous sommes dans la première salle de ce qu'on appelle les réserves, la première pièce. C'est un endroit où on prépare les œuvres. Il faut savoir que le FRAC a pour mission de diffuser, donc on remplit amplement notre mission, en diffusant à peu près 800 œuvres par an. Voilà. Donc cet espace, c'est un endroit où on prépare les œuvres, on les emballe, on les inspecte, on les conditionne, on leur redonne aussi un petit peu de vie. Voilà. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et on fait également ce qu'on appelle des constats d'état. Voilà. Un constat d'état, c'est un examen de l'œuvre, c'est un constat photographique. C'est un document qui nous sert à visualiser le bon état de l'œuvre. Voilà. Donc sur ce constat est noté les dégradations, les restaurations, l'état de l'œuvre, s'il est en bon état, en mauvais état, s'il est présentable ou pas. Voilà, c'est des documents qui demandent beaucoup de temps à réaliser, qui est constitué quelquefois d'une dizaine de pages, de documents photographiques, etc.
Vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas le terme réserve pour ces réserves. Vous préférez quoi ?
On n'a pas vraiment trouvé de terme adapté. Réserve, c'est quelque chose d'assez, pour nous, assez restreint. Pour nous, c'est plutôt un lieu qui reste vivant.
On aime bien que ce ne soit pas uniquement perçu comme un lieu de stockage, uniquement avec des caisses. Parce qu'une œuvre, ce n'est pas uniquement une matérialité qui est là, qui s'accumule.
Et c'est vrai que des étudiants en restauration ont dénommé ces zones. Par exemple, la zone où on inspecte les œuvres, c'était une zone d'examen. En rapport au terme médical. La zone de stockage où on voit les caisses, c'était une zone de sommeil, c'est la zone où les œuvres se reposent. Et cette zone d'examen, c'est aussi une salle de réveil aussi, où on réveille les œuvres, c'est-à-dire qu'on leur redonne, on sort des caisses, on leur redonne vie aussi. Savoir qu'une œuvre dans une caisse n'est pas quelque chose. Ce sont des objets dans une caisse. L'œuvre prend vraiment sens quand elle est exposé dans de bonnes conditions, etc.
C'est aussi toute la documentation qui accompagne l'œuvre, qui n'est pas ici visible. C'est des entretiens qu'on fait avec les artistes, des documents qu'on fait avec eux, qui sans l'œuvre, sans sa documentation, peut pas être, n'existe pas peut-être.
Comment est-ce qu'on documente une œuvre ? Ça veut dire quoi, documenter une œuvre ?
Ça veut dire qu'au moment de l'acquisition, on va demander le maximum d'informations à l'artiste. D'abord par le biais de questionnaires papier, et ensuite on s'est rendu compte que c'était parfois un peu restreint comme format. Et du coup, on s'est mis à faire de plus en plus des entretiens vidéo. Voilà. Pour laisser un peu plus de place à la parole de l'artiste. Voilà, sur plein de questions. Ça peut aller de la comment on va présenter l'œuvre, comment on va la conserver, est-ce qu'on peut imaginer que l'œuvre peut évoluer dans le temps, comment.
Et est-ce que vous les rendez publics, ces documentations, par exemple ces entretiens avec les artistes, est-ce que ça peut devenir œuvre en soi-même?
Pour l'instant, c'est pas vraiment public, c'est plutôt un document qui peut être consulté par des chercheurs, des personnes intéressées, des commissaires pour des expos. Et en soi, ça pourrait devenir une œuvre, oui, pourquoi pas. Parfois, une œuvre, ça peut être juste un protocole, une manière de... Enfin, il n'y a pas de matérialité autre qu'un protocole décidé par l'artiste, donc si on suit ses indications, ça peut être uniquement ça.
On entend un bruit là autour de nous, c'est un bruit d'une soufflerie. Est-ce que c'est une manière de réguler, je sais pas, la température ici et de prendre soin de l'environnement pour la conservation des œuvres?
Oui, c'est une manière de réguler le climat, c'est-à-dire que les œuvres sont conservées dans un climat propre, c'est-à-dire avec un degré d'hygrométrie propre à beaucoup d'œuvres de la collection, qui est à peu près, je sais pas, 55 degrés d'hygrométrie et 20 degrés pour la température ambiante. Voilà. Ça nous permet de conserver à peu près toutes les typologies d'œuvres ambiantes.
Comment est-ce que vous traitez ici votre rapport au temps ?
Déjà, le temps est pour nous très important et très intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on acquiert une œuvre, on se pose la question de son évolution dans le temps. Le temps fait partie intégrante de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on anticipe certaines choses, soit par les questionnaires, on demande aux artistes quel est votre rapport au temps, donc on avait des réponses assez drôles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nier le temps, on travaille avec des œuvres qui ne sont pas pérennes, des matériaux qui ne sont pas pérennes, donc on est obligé d'anticiper ce genre de choses. On privilégie plutôt, non pas la, on peut parler de conservation, mais la transmission. Notre problème, c'est de savoir comment on va transmettre cette œuvre. On achète une œuvre, qu'est-ce qui fait œuvre et comment on transmet par la suite ces œuvres avec la même force. Transmission, on dit transmission d'un mouvement et il faut transmettre le mouvement avec la même énergie que on peut très bien transmettre un mouvement de manière différente. Mais il faut conserver cette énergie. Comment on peut conserver cette énergie? Alors ça peut passer par plein de médiums différents. Pourquoi pas des entretiens vidéo? Pourquoi pas des documents? Pourquoi pas... voilà. Et puis on a quelques pièces qui sont pérennes, qui ont une durée de vie beaucoup plus importante. Hein. On a des médiums totalement différents. Hein.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous travaillez avec le temps et que c'est une relation un petit peu différente de celle qu'on pourrait trouver dans des musées qui ne seraient pas des fracs.
Oui, ce qu'on voulait dire, c'est que le musée va acquérir et conserver une pièce dans un état donné, l'état de la pièce au moment de l'acquisition, et que le frac a peut-être une plus grande souplesse qui permet de possiblement faire évoluer des pièces, toujours en travaillant avec l'artiste.
Une œuvre, dans un musée, une œuvre n'a qu'une seule issue, à partir du moment où elle est achetée, c'est de se dégrader. Donc les conservateurs retardent cette dégradation au maximum. Mais c'est pas possible en art contemporain, et vu les médiums que l'on conserve. Voilà. Il faut savoir qu'on a des œuvres qui sont soit des installations vidéo, c'est des sites internet, des vidéos, des installations sonores. On a vraiment tous les médiums possibles et inimaginables.
Les médiums évoluent dans le temps. Ouais. Alors comment est-ce qu'on s'adapte, puisque ces médiums, la technologie notamment, évolue très très vite?
Nous, on ne peut pas s'adapter, justement, c'est aux artistes de s'adapter. Pour cette raison qu'il faut anticiper un petit peu toute cette évolution et avoir des questionnaires suffisamment vastes pour pouvoir anticiper tous les problèmes, c'est-à-dire les changements de... Par exemple, pour un moniteur, on a beaucoup de pièces qui étaient sur des télés, qui avaient un format particulier, des formats 4 tiers. La forme du moniteur était importante. Certains artistes sont d'accord pour évoluer sur d'autres moniteurs qui n'ont pas le même format, qui sont différents, mais d'autres ne sont pas d'accord pour évoluer sur... Mais c'est vrai que nous, on a pris cette collection en cours. On n'a pas suffisamment de documents pour pouvoir anticiper ces choses. Voilà. Donc c'est quelque chose que l'on fait par la suite.
Vous parliez tout à l'heure des questionnaires. Qu'est-ce qu'il y a alors dans un questionnaire type? C'est quoi les questions que vous posez aux artistes?
Il y a toute une partie pour identifier l'œuvre, des questions basiques sur l'année de création, le contexte, dans quel contexte il l'a produit, quand, où, par rapport à une expo ou non, s'il travaille dans un atelier, s'il a eu une aide matérielle, d'autres collaborateurs extérieurs. Après, il y a toute une partie sur comment la pièce va être montrée. Ça peut aller de la taille de l'espace, est-ce qu'elle peut être montrée avec d'autres pièces.
Ce qui est important aussi de savoir dans ces questionnaires, c'est quels sont les éléments qui font vraiment œuvre, qui ne sont pas possibles de remplacer. Parce que c'est vrai qu'on a des œuvres totalement différentes, on a des éléments qui sont quelquefois des accessoires que l'on peut modifier, remplacer. Donc tout cela est très très compliqué. Et si on n'a pas les clés, on ne peut pas faire évoluer cette pièce ou la présenter. Voilà. Donc c'est vraiment un questionnaire, c'est vraiment un interrogatoire hein, qui doit être le plus précis possible. L'avantage d'un entretien sonore, oral, c'est qu'un artiste peut se contredire. Il y a des choses, il y a une intonation de la voix qui est importante. Tout est vraiment important, même les gestes peuvent être importants aussi. Donc c'est vraiment des éléments qui sont très très riches pour nous. Si vous voulez, l'artiste ne pense pas à la transmission de sa pièce dans un futur proche. Il parle de son œuvre sur le moment présent. Elle doit être montrée de telle manière. Il n'anticipe pas du tout, pour certains, ils n'anticipent pas du tout une monstration dans 10 ans, 20 ans, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et puis, c'est vrai que quelque part, certaines œuvres ne seront peut-être plus d'actualité d'ici 10 ans. Cette perte de leur force ou de...
Voilà. C'est quoi les plus gros challenges que vous avez à relever ici? Les défis de conservation ou alors de documentation des œuvres? Ou même au-delà de ça, il y a peut-être des choses dont on n'a pas idée en fait.
C'est pas un défi, mais c'est la peur de ne pas pouvoir, de ne pas documenter suffisamment les œuvres, de faire des erreurs aussi dans nos appréciations. Et c'est vrai que le manque de documentation est un grand problème. Hein. Il faut savoir que quand on donne des œuvres à restaurer, sans documentation, un restaurateur ne peut pas travailler. Voilà. Le travail d'un restaurateur, c'est un peu comme un médecin généraliste, si vous voulez. C'est quelqu'un qui n'intervient pas sur une œuvre, sur un patient, il interroge pour savoir. Après, il décide d'intervenir ou pas. Mais sans cet interrogatoire, il ne peut pas... Il ne travaille pas. Après, il décide d'intervenir ou pas. C'est intéressant de parler de restauration. Hein, c'est vraiment... J'ai appris beaucoup avec des étudiants de l'École d'art d'Avignon. C'est vrai que c'est vraiment une enquête vraiment très, très... très très précise, très très importante hein, pour la restauration d'une œuvre, pour la sauvegarde de l'œuvre aussi. Hein.
Vous restaurez des œuvres ici?
Ça nous arrive. Là, on est en train de se poser le problème, par exemple, d'une œuvre de Claude Lévesque. Hein. C'est une guirlande lumineuse. C'est une œuvre qui s'appelle Plus de lumière. C'est une guirlande lumineuse en cercle et qui scintille un petit peu comme des rayons lumineux. Le problème, cette pièce a été prêtée à Séoul, le système électronique a grillé, et on n'a plus vraiment la trace de l'effet lumineux. Donc c'est idiot, mais si on avait eu par exemple une vidéo de cet effet lumineux, on pourrait le reproduire très facilement. Mais là, on n'a que des écrits et l'appréciation de l'artiste, mais c'est... Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que cette œuvre a fait l'objet d'une étude par une étudiante en restauration, et on nous disait très bien qu'elle n'avait pas suffisamment d'informations, on n'avait pas sur cette pièce pour pouvoir travailler dessus.
Radio Grenouille, 6e plateau.
Thank you.
C'était une sélection de
Pascal Pinault.
Sixième plateau.
C'est quoi qui vous plaît à vous deux, ici, dans ce travail, dans ce métier, là, que vous faites tous les jours, à venir déambuler dans ces très très grands espaces? Il y a combien de mètres carrés, là, où on est?
Il y a 900 mètres carrés. Qu'est-ce qui nous amuse? On gère tout ce fonds, qui est l'histoire de plusieurs années d'exposition aussi. Cette idée de transmettre, de savoir comment on va transmettre toute cette histoire, est vraiment quelque chose de passionnant. Ce rapport au temps est passionnant aussi. Qu'est-ce que vont devenir toutes ces œuvres? De quelle manière on va pouvoir transmettre cette histoire? Et quelque chose de vraiment intéressant. Travailler avec des artistes de notre temps est vraiment primordial. La conservation ne m'intéresse pas au sens propre du terme. Conserver des œuvres, ce n'est pas quelque chose de très excitant pour moi. Voilà. Pour nous, une exposition, c'est une création. Ici, on voit des objets, des choses qui sont matérielles, on voit des caisses, mais le frac, c'est pas simplement ça. On pourrait parler de choses évolutives. On a beaucoup d'œuvres qui évoluent dans le temps, selon la volonté des artistes aussi. C'est des choses très, très intéressantes. On a acheté récemment des carnets qui n'étaient pas considérés comme une œuvre. Ce sont des carnets de travail d'une artiste qui s'appelle Monique de Régibus et qui sont actuellement en exposition au J5, qui étaient pour elle des carnets de croquis, de travail qui évoluent en permanence. Donc elle était très embêtée de vendre ses carnets puisque c'est son outil de travail. Et on a pu faire comprendre que ces carnets pouvaient très bien être achetés par le FRAC, mais être mis à sa disposition. Il pouvait très bien évoluer avec le temps, être montré, mais rester toujours sa propriété morale. Donc elle pouvait toujours s'en servir comme outil de travail. Donc on a à peu près 1300 œuvres depuis les années 82-83, date de création du FRAC. Ensuite, l'une des missions les plus importantes, c'est la diffusion de ces mêmes pièces, de ces mêmes œuvres, dans des lieux qui ne sont pas forcément des espaces professionnels, c'est-à-dire pas forcément des musées. Il faut peut-être remettre un petit peu dans le contexte l'histoire des FRAC. Hein. Les FRAC ont été créés dans les années 80 dans le but de décentraliser un petit peu la culture en région. Voilà. Je me rappelle, dans les années 80, pour aller voir une exposition, il fallait forcément aller à Paris. Nous, on diffuse dans beaucoup de lieux qui ne sont pas forcément des lieux professionnels. Ça peut être aussi bien des écoles que des associations. On prête à peu près 800 œuvres par an, donc c'est quand même un gros succès. Hein. Sur les 1300 œuvres de la collection, c'est plus de la moitié de la collection bouge, donc on remplit amplement notre mission. Voilà. Et c'est vrai que diffusion et conservation ne sont pas compatibles, ce sont des termes totalement antagonistes. On ne peut pas conserver et diffuser. Et quand on diffuse, on prend des risques. Une œuvre s'abîme, une œuvre s'use, etc. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc on prend ce type de risque, mais voilà, ça fait partie de notre travail. Il est beaucoup plus satisfaisant de voir ses œuvres en extérieur que de les voir dans une réserve prendre la poussière et se dégrader aussi. Sa vie, c'est du vivant.
On va faire un tour. C'est une sculpture de Roland Bacquier, là. Alors, Richard Parolon.
Ouais, c'est une pièce qui a été acquise dans les années 83. C'est une des toutes premières pièces. Là, on voit le numéro d'inventaire qui est 83-28. Alors 28, c'est le nombre d'œuvres qui a été acheté depuis le début des FRAC. Donc c'est la 28e pièce qui a été achetée. C'est une œuvre un petit peu emblématique parce qu'on parlait de documentation, mais on n'a pratiquement rien sur cette pièce. Une étudiante en restauration avait travaillé sur cette œuvre, son sujet de mémoire, et avait fait une petite enquête pour connaître un petit peu l'origine de cette pièce. À l'origine, c'est une pièce qui s'appelle Ballon événement. La seule trace que l'on ait, c'est une photo d'un ballon atmosphérique gonflé dans son atelier. Et dans ces caisses sont les angles qui ont servi à retenir ce ballon. Donc, on expose cette pièce, la photo, qui est une trace d'un événement, et les angles qui sont au sol. Mais on n'en sait pas plus sur cette œuvre, parce que est-ce que le ballon s'est envolé, est-ce qu'il a bougé, etc. Ça, c'est un mystère. Et voilà, donc elle s'est livrée à une enquête, elle a même fait une reconstitution avec un ballon qu'elle a gonflé, etc. Donc c'est un beau travail.
On ne conserve certainement pas de la même manière une sculpture de Richard Bacquier qu'une grande photographie de je ne sais pas qui, ou encore qu'une installation, un mobile de Calder. Comment vous y prenez ?
On conserve, c'est-à-dire qu'on retarde, on retarde les dégradations sur des œuvres. Bon, la conservation traditionnelle, c'est assez simple. Hein. Ça demande d'être un petit peu rigoureux. Ça demande ce qu'on appelle une veille sanitaire, c'est-à-dire d'inspecter un petit peu les œuvres, de les ouvrir, de voir un petit peu, d'en prendre soin, de s'en occuper. Ce qui est plutôt compliqué, c'est plutôt ce qu'on appelle l'obsolescence technologique, le passage à d'autres médiums, à d'autres choses. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on manque d'éléments. On avait le cas d'une œuvre de Gadamer qui représente trois armoires en plastique sur lesquelles l'artiste a cousu à la main avec du fil un poème qui s'appelle Majnoun. Voilà, c'est très, très beau, c'est magnifique. Et c'est vrai que ces armoires étaient sales, présentaient des éléments, des fures de mouches sur la toile. On me demandait, mais pourquoi faudrait nettoyer, parce que c'est sale, c'est pas propre. Et quelques temps après, j'ai rencontré l'artiste et je lui ai parlé évidemment de sa pièce, de la restauration, de tâches, etc. Et là, il m'a expliqué, mais non, mais ces fures de mouches, c'est pas des fures de mouches, c'est quand j'ai cousu le poème, je me suis coupé avec l'aiguille et c'est des traces de sang en fait, donc il ne faut pas du tout les enlever, ça fait partie intégrante de l'œuvre. Et par exemple, on ne remet jamais une œuvre à neuf, on ne restaure pas une œuvre pour remettre une œuvre à neuf. Le temps est important dans une œuvre. Une œuvre des années 90 a une certaine patine et c'est important de garder cette patine qui la date. Hein. C'est vrai que quelquefois les emprunteurs ne comprennent pas pourquoi une photo est légèrement abîmée, pour eux elle n'est pas présentable, pour nous elle est tout à fait présentable parce qu'elle est marquée par le temps. Ce qui est important pour nous, c'est qu'elle garde son intégrité. Voilà. Moi j'aimerais bien parler d'une œuvre aussi de Riopel qui a fait pareil l'étude, qui a fait partie d'un mémoire de restauration, une peinture abstraite avec une couche picturale assez importante, et on s'est perçu que cette toile avait été restaurée au revers, elle avait été déchirée au revers, elle avait été restaurée. Bon, on voulait en savoir un petit peu plus et elle s'est aperçue que à certaines périodes de sa vie, toutes les œuvres de Riopel avaient été lacérées par sa femme jalouse, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le revers sur cette œuvre est aussi intéressant que la face. Le revers fait partie d'une histoire. Bon, c'est peut-être accessoire, mais je trouve que c'est assez beau, c'est beau entre guillemets.
Elle est où l'histoire la plus dingue de cet immense espace qui est le vôtre ? Où est-ce qu'elle se cache ?
L'histoire la plus dingue, on a une pièce magnifique qui est une pièce de Patrick van Kakenberg. C'est un artiste belge qui est très connu maintenant. Donc on a acheté il y a quelques années une œuvre qui s'appelle Le Dé. Donc c'est la réplique d'éléments de procession qu'il avait fabriqué pour son village, une espèce de voile qui servait à une procession mi-religieuse, mi-païenne. Donc il avait fait cette pièce pour les habitants du village, mais il avait fait à côté, il avait créé une œuvre qui était assez belle, avec des pantoufles, avec ce voile et ses bâtons, et un dispositif circulaire, qui est vraiment une œuvre de musée. Et on a acheté cette pièce, et l'idée est venue à l'ancien directeur du FRAC, qui s'appelait Eric Manchon, de réactiver cette pièce lors de la fête du Padier. Donc voilà, c'était un mélange de... Donc cette œuvre n'était pas du tout adaptée, mais l'idée a germé. On a rencontré le père Otolino et près de la paroisse du Panier était enchanté. Et donc on a une vidéo de cette pièce qui fait partie d'une procession dans la fête du Panier. Et ça c'est une œuvre, c'est vraiment une œuvre magnifique en elle-même. Cette vidéo est un témoignage, une trace... assez extraordinaire, assez belle. Et c'est vrai que maintenant, tous les ans, les gens de la paroisse nous ont demandé de réemprunter cette pièce. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas presser cette œuvre, qui est vraiment une œuvre, qui est très fragile. On a dû la restaurer par la suite. Et on leur a fait ce qu'on appelle une réplique, voilà, qui sert toujours au mois de mai, hein, le jour de la Saint-Jean, je crois.
Bon, mais pour ces histoires de conservation, pour bien conserver, en fait, il faut savoir ce qui fait œuvre, ce qui fait sens, non ?
Ce qui fait sens dans une œuvre, oui. Parce que on peut très bien conserver tout et n'importe quoi dans une œuvre. On a l'exemple, par exemple, lorsqu'on a fait l'inventaire de toutes les collections, en, en 2012, ce qu'on appelle un récollement. On a travaillé avec beaucoup d'étudiants, plusieurs étudiants, contre une personne qui venait d'une école un peu plus classique, qui était spécialisée en peinture. Et les autres étudiantes ouvraient les caisses, faisaient un constat de l'œuvre. Et cette étudiante ne savait pas appréhender les œuvres en volume, a fait le constat de la caisse. Elle n'a pas fait la différence entre... Enfin voilà, c'était assez drôle. Et on s'est beaucoup amusé avec ce genre de choses. Donc, d'appréhender une œuvre, c'est déjà... C'est la chose la plus importante pour conserver. Alors, la principale mission des FRAC, c'est l'acquisition d'œuvres d'artistes contemporains, en principe. L'autre mission, c'est la diffusion de sa collection, qui est une des missions primordiales aussi. Et l'acquisition d'un fonds d'œuvres. Ce qui est marqué sur une caisse, ce sont les dimensions que l'on n'a pas forcément notées et les numéros d'inventaire. Le numéro d'inventaire, c'est un petit peu pas le passeport de l'œuvre, mais la pièce d'identité de l'œuvre, ce qui permet de l'identifier et d'avoir une référence. Je sais que dans les musées ne marquent jamais le nom des artistes sur les œuvres pour éviter les vols, etc. On n'est pas les noms. Bon, nous, on travaille avec des artistes contemporains qui n'ont pas des cotes extraordinaires. On n'a pas des Van Gogh, on n'a pas des Derain, on n'a pas des Picasso. Donc ça va, on peut se permettre de marquer des noms, de marquer le contenu sur les caisses.
Ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sixième plateau.
Une oreille tendue vers le FRAC PACA. C'était une visite de la réserve du Fonds régional d'art contemporain. 900 mètres carrés d'œuvres d'art, royaume de Pascal Pron et Laura Bayot, chargés de collection, qui ont accueilli Jeanne Lacaille et son micro. Merci à eux. Et maintenant, on retrouve l'agenda du FRAC pour novembre et décembre 2017.
L'agenda du FRAC.
L'agenda du FRAC. En ce moment,
le FRAC est en période de montage des prochaines expositions. Mais on vous donne rendez-vous le vendredi 1er décembre à partir de 18h pour leur vernissage et du 2 décembre au 18 février pour les visiter. Vous pourrez voir Le bruit des choses qui tombent au plateau 1 et 2 et au plateau multimédia. Une expo qui met en regard le travail de 15 artistes colombiens avec une sélection d'œuvres de la collection du FRAC dans un parcours construit autour d'une émotion, la peur. Au plateau expérimental, vous pourrez découvrir une exposition du travail photographique de l'artiste Olivier Rébuffat, intitulée « Au royaume de Babok ». Et au troisième plateau, parcourez une bibliothèque d'inventions littéraires faite d'objets existants uniquement dans la fiction ou ayant été inventés par la fantaisie d'un écrivain. Ça s'appelle « Inventaire d'inventions inventées » et on vous en reparlera car cette exposition invite à plusieurs rendez-vous entre littérature et art.
Hors les murs.
Si vous êtes en balade dans les Alpes-Maritimes d'ici le 17 février, allez découvrir l'exposition « Belle terrasse » de la photographe Suzanne Hetzel à l'espace muséal de Tourette-sur-Loup. À Marseille, on visite l'expo « La Maison Chypre » de la photographe Monique de Régibus, un parcours proposé dans le cadre de la venue des rencontres d'Arles au J1 qui invite à voir le monde tel qu'il va au travers de 8 expositions. Rendez-vous donc au J1, c'est jusqu'au 7 janvier et c'est gratuit. Et si c'est dans les Hautes-Alpes que vous partez en week-end, rendez-vous au Muséum de Gap pour découvrir, entre-temps, un parcours de 3 expositions mêlant des œuvres du FRAC, de musées et issues de collections privées. Belle visite à vous et belle rencontre, et à bientôt pour un prochain agenda.
L'agenda du FRAC.
L'agenda du FRAC.
FRACPACA.org.
Tous les sons du FRAC sur le webmag FRAC en poche à retrouver sur radiogrenouille.com.
L'agenda du FRAC.
When the footsteps stop.
they say, fuck you now. And the ladies drop. And I say, fuck me now. Did you call the police again? Was it your neighbor trying to keep you out of trouble? Did you call the police again? Was it your boyfriend trying to keep you out of trouble? When the footsteps stop, when the lady says me now, when the lady drops, in this place, a forgotten town. Did you call the police again? Was it your boyfriend trying to keep you out of trouble? Did you call the police again? Was it your boyfriend trying to keep you out of trouble?
She just an angry neighbor. She wants to fuck you now. She just an angry neighbor. In this loveless town. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta.
Did you call the police again? Was it your boyfriend trying to keep you out of trouble? Did you call the police again? Was it your boyfriend trying to keep you out of trouble?
She just an angry neighbor. She wants to fuck you now. She just an angry neighbor. In this loveless town.
D'entendre un titre sélectionné par un artiste mis en lumière au Fonds régional d'art contemporain, PACA.
C'était un titre proposé par Pascal Grimaud.
Tous les sons du FRAC sur le webmag
FRAC en poche
à retrouver sur
radiogrenouille.com.
Sixième plateau.
Une oreille tendue vers le FRAC PACA.
C'était l'émission 6ème plateau, l'émission mensuelle du FRAC PACA sur Radio Grenouille. À retrouver en podcast sur la plateforme FRAC en poche. À bientôt sur les 3-8.
Exposé. Exposé.
Matière.
Matière.
Plastique.
Plastique.
Plastique. Installé. Accroché.
Accroché.
Exposé.
Sixième plateau.
Hermut.
Un peu serré.
Hermut.
PACA. Sixième plateau. Une oreille tendue vers le FRAC PACA.
Radio Grenouille.
Sixième plateau. Plateau.
Sixième plateau.
Ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose.
Tous les sons du FRAC
à retrouver sur les ondes du 88.8 FM et en podcast sur le webmag
FRAC en poche.
Radiogrenouille.com.